Chapitre 23. Forêt de séquoia du Texas. Ce matin-là, ils prirent leur petit déjeuner dans une bulle verte surplombant le Golden Gate à Machu Picchu, mais Odysseus ne leur fit pas le récit de ses voyages. Personne ne pensa à le lui demander. Ada se dit que tous semblaient préoccupés et elle comprit bientôt pourquoi. En ce qui la concernait, elle était préoccupée parce qu'elle avait peu dormi, mais elle avait passé avec Armand la nuit la plus merveilleuse de sa vie. Ada avait déjà eu des rapports sexuels. Quelle femme de son âge n'en avait pas eu? Mais elle se rendit compte qu'elle n'avait jamais fait l'amour. Armand s'était montré d'une tendresse exquise et d'une insistance enthousiaste. Attentif à ses désirs et à ses réactions, sans en être l'esclave, sensible mais viril. Ils avaient peu dormi, pelotonnés l'un contre l'autre sur l'étroit lit près de la fenêtre incurvée, mais s'étaient souvent réveillés, leurs corps s'étreignant avant même que leurs esprits soient pleinement conscients. Lorsque le soleil s'était levé derrière l'aiguille flanquant Machu Picchu à l'est, Ada était devenue une autre... Non, ce n'était pas vrai. Elle se sentait la même, mais plus grande, plus comblée, plus lucide. Anna, vit-elle, avait ce matin-là un comportement des plus étranges. Le visage empourpré, elle semblait sur le qui-vive, et se montrait attentive à tout ce que disait le dénommé Odysseus. Chaque fois que ses yeux se posaient sur Ada, elle détournait la tête en rougissant. Alors que le petit déjeuner touchait à sa fin et qu'il se préparait à partir vers le nord pour regagner le château d'Ardis, Ada comprit enfin. « Mon Dieu !» Anna a couché avec Odysseus. Elle resta une bonne minute sans pouvoir y croire, car jamais son amie ne lui avait confié quoi que ce soit qui ait trait aux hommes ou au sexe en général. Puis elle vit les regards qu'Anna jetait à l'homme barbu. Perçut certains indices de nature physique, la façon dont la jeune femme réagissait au moindre mouvement de l'homme, ses mains qui semblaient se tendre vers lui, par exemple. Et comprit que la nuit avait été agitée dans les domis du Golden Gate. De toute évidence, Daeman et sa vie étaient passés à côté de la fête. Le jeune homme était d'aussi méchante humeur que la veille, tarabustant sa vie avec ses questions sur le bassin méditerranéen, à la fois impatient et inquiet à l'idée de partir à l'aventure. Sa vie paraissait distraite, presque chagrinée et visiblement impatiente de partir. Armand se montrait calme et attentionné vis-à-vis d'Ada, sans toutefois que cela soit trop outrancier. Elle surprit son regard à deux ou trois reprises et fut un sourire. À un moment donné, il glissa une main sous la table pour lui caresser la jambe. « Alors, quel est le plan ?» demanda Daeman alors qu'ils achevaient leur petit déjeuner composé de café, de jus de fruits frais, de baies et de croissants. Ada avait observé avec fascination la cuisson de ces derniers. « Le plan ?» répondit Savi. Prévoit que nous conduisions Odysseus, Anna et Ada au château d'Ardis. Si nous voulons qu'ils arrivent avant la nuit, nous avons intérêt à nous presser. Puis que nous gagnions ensuite le bassin méditerranéen, Armand, toi et moi. Te sens-tu d'attaque pour une telle expédition, Daeman Ur?
Oui.
Ada jugea cependant que Daeman ne semblait pas d'attaque. Il semblait plutôt souffrir de la fatigue, de la gueule de bois ou des deux réunis.
« Alors faisons nos valises, grouillons-nous le cul et cassons-nous !» déclara la vieille femme.
Ils embarquèrent à bord du Sony qui les avait conduits en ce lieu, bien qu'Anna eût découvert d'autres machines volantes dans l'une des salles fixées au pylône sud du pont. En dépit de sa petite taille, l'appareil était équipé de compartiments assez spacieux pour contenir le sac à dos de sa vie, ainsi que le reste de leur équipement, mais Odysseus transportait tout un attirail avec lui. Un glaive et son fourreau, un bouclier, des tenues de rechange et deux javelines identiques à celles avec lesquelles il avait chassé l'oiseau terreur. Sa vie s'installa dans la niche centrale, là où étaient placées les commandes virtuelles, avec Ada à sa gauche et Armand à sa droite. Daeman, Odysseus et Anna s'installèrent derrière eux, et Ada surprit son amie alors qu'elle regardait l'homme barbu avec des yeux énamourés. Après avoir mis le cap à l'est et franchi une chaîne de montagnes, ils perdirent de l'altitude et se dirigèrent vers le nord, survolant une jungle touffue et un gigantesque fleuve aux eaux brunâtres que Savi déclara s'appeler Amazon. La canopée de la forêt tropicale ne s'interrompait que pour laisser pointer quelques pyramides en vert bleu dont l'apex atteignait une hauteur de 300 mètres, effleurant les nuages bas porteurs de pluie. Sa vie ne daigna pas expliquer leur nature et les autres semblaient trop fatigués ou trop inquiets pour s'en enquérir. Une demi-heure après que la dernière de ces pyramides eut disparu derrière eux, Savi fit virer le Sony sur la gauche et ils mirent le cap au nord-ouest pour franchir une nouvelle chaîne de montagnes. L'air était si raréfié que la bulle du champ de force fit son apparition, bien que leur altitude apparente ne fût que de 150 mètres et la pression partielle en oxygène augmenta à l'intérieur. « On ne va plus dans la bonne direction, n'est-ce pas ?» demanda Harman au bout d'un long silence. Savi acquiesça. Je préfère éviter les monolithes de Zorin qui infectent les côtes de ce qui était jadis le Pérou, l'Équateur et la Colombie, expliqua-t-elle. Certains d'entre eux sont encore armés et opérationnels. C'est quoi les monolithes de Zorin? Demanda Anna.
Rien qui nous concerne pour le moment, répliqua Savi.
À quelle vitesse nous déplaçons-nous? Interrogea Ada.
On ne va pas très vite.
Savi consulta la console virtuelle qui entourait ses mains et ses poignets.
Environ 450 km à l'heure.
Ada tenta d'imaginer une telle vitesse. En vain. Avant de monter à bord du Sony, elle n'avait jamais rien emprunté de plus rapide qu'un Drosky tracté par un Voynix, et elle n'avait aucune idée de la vitesse d'un tel équipage. Sans doute était-elle inférieure à 450 km/h. Les montagnes et les corniches en contrebas défilaient bien plus vite que ne le faisait la contrée séparant le château d'Ardis du portail Fax lorsqu'elle se rendait à celui-ci en Drosky ou en calèche. Une nouvelle heure s'écoula. Puis Anna déclara
« Je commence à attraper des crampes à force de tendre le cou pour regarder en bas, et la bulle est trop petite pour que je m'assoie. J'aimerais bien !»
Elle poussa un cri. Ada, Daeman et Harman l'imitèrent. Il avait suffi que Savi caresse les commandes virtuelles pour que le Sony disparaisse au-dessous d'eux. L'espace d'un instant, avant de fermer les yeux, Ada contempla une parfaite illusion. 6 êtres humains avec armes et bagages, les armes étant celles d'Odysseus, flottant librement dans l'air sans soutien aucun.
« La prochaine fois, préviens-nous avant de nous jouer un tour pareil, » dit Harman d'une voix tremblante.
Savi se contenta de grommeler. Ada passa une bonne minute à palper le métal de la coque et le cuir rembourré de la couchette sous ses jambes, son ventre et sa poitrine, avant de trouver le courage de rouvrir les yeux.
« Je ne vais pas tomber, je ne vais pas tomber, je ne vais pas tomber !»
se répéta-t-elle.
« Si tu vas tomber !»
lui répondirent ses yeux et son oreille interne. Elle referma les paupières, les rouvrant alors que l'appareil sortait des Highlands pour survoler une péninsule s'étendant vers le nord-ouest.
« J'ai pensé que ceci t'intéresserait, »
dit Savi en s'adressant au seul Harman, comme si les autres étaient incapables de comprendre ce dont elle parlait. Devant eux, l'océan avait taillé dans l'isthme, y perçant un bras d'au moins 150 km de large. Savi prit de l'altitude et mit cap au nord.
Les cartes que j'ai consultées montrent un isthme reliant l'Amérique du Nord et du Sud sans la moindre interruption,
dit Harman en se redressant sur sa couchette pour examiner le paysage derrière eux.
« Les cartes que tu as consultées sont totalement inutiles, » rétorqua Savi.
Ses doigts entamèrent une petite danse et le Sony prit de la vitesse et de l'altitude. Il était midi passé lorsqu'une nouvelle côte fut en vue. Savi fit descendre le Sony et ils survolèrent bientôt des marécages qui eurent vite fait de céder la place à des kilomètres de séquoia, un nom que Savi dut leur apprendre, dont les plus grands se dressaient à 100 mètres de haut.
« Quelqu'un a envie de profiter du déjeuner pour se dégourdir les jambes sur la terre ferme ?»
demanda Savi.
« Ou de satisfaire un besoin naturel ou un des regards indiscrets ?»
4 voix sur 5 répondirent par l'affirmative. Odysseus se contenta de sourire. Il s'était assoupi. Ils déjeunèrent dans une clairière au sommet d'une petite butte entourée par des géants végétaux. À peine visibles, les anneaux E et P se déplaçaient dans un carré de ciel bleu au-dessus de leur tête.
« Est-ce qu'il y a des dinosaures dans les parages ?»
s'enquit Daeman en scrutant les ombres entre les arbres.
« Non, » répondit Savi. « Ils préfèrent le centre et le nord du continent. »
Rassuré, Daeman s'adossa à une branche morte et mâchonna sa tranche de bœuf, son pain et ses fruits. Mais il se redressa vivement lorsqu'Odysseus déclara «
Savi Ur veut peut-être nous faire comprendre qu'il y a par ici des prédateurs encore plus féroces que ces dinosaures recombinés. »
L'intéressé lui lança un regard agacé, comme on en réserve aux enfants incorrigibles, et fit non de la tête. Daeman se tourna de nouveau vers les ombres, puis changea de place pour se rapprocher du Sony. Anna, dont les yeux semblaient rivés à Odysseus, prit néanmoins le temps d'attraper son Turin et de s'en recouvrir le visage. Elle resta allongée plusieurs minutes, pendant que les autres mangeaient à l'ombre dans un silence total. Puis elle se redressa, ôta le carré de tissu brodé de micro-circuits et dit
« Odysseus, veux-tu voir ce qui vous arrive à toi et à tes camarades pendant que vous assiégez la cité au haut mur ?»«
Non, » répondit le grec.
D'un coup de dent, il se découpa un morceau d'oiseau terreur qu'il mâchonna lentement, puis but une gorgée de vin à l'outre qu'il avait apporté.
Zeus est en colère, et il fait pencher la balance en faveur des Troyens, commandés par Hector, poursuivit Anna sans tenir compte de la réticence d'Odysseus. Ils ont repoussé les Grecs à l'intérieur de leur défense, les pieux et le fossé, et ils se battent autour des nefs noires. Apparemment, ton camp est sur le point de succomber. Tous les grands rois ont pris la fuite, toi y compris. Nestor est le seul qui se bat encore.
Odysseus laissa échapper un grognement.
Le vieux sacripant. S'il est resté sur le champ de bataille, c'est parce qu'on vient de tuer son cheval.
Anna se tourna vers Ada et lui sourit. De toute évidence, elle ne cherchait qu'à faire sortir Odysseus de son silence, et elle y avait réussi. Ada ne pensait pas que cet homme bien trop réel, à la peau cuivrée, ridée, couturée de cicatrices, si différent des hommes de son entourage, régulièrement réparé par l'infirmerie, était l'Odysseus de l'épopée du Turin. À l'instar des plus intelligentes de ses connaissances, Ada estimait que le Turin n'était qu'une forme de divertissement virtuel, datant fort probablement de l'ère perdue.
Te rappelles-tu ce combat près des nefs noires ? Insista Anna.
Nouveau grognement d'Odysseus.
Je me souviens surtout du festin qui a eu lieu la veille de cette journée maudite entre toutes. 30 navires étaient arrivés de l'île de Lemnos, avec à leur bord 1000 mesures de vin, de quoi noyer les armées troyennes, si nous ne leur avions pas trouvé un usage plus agréable. Un cadeau d'Éuné, fils de Jason, à l'intention des Atrides, Agamemnon et Ménélas.
Il fixa Anna et les autres en plissant les yeux.
Les voyages de Jason, voilà une histoire digne d'être contée.
Exception faite de sa vie, tous fixèrent le colosse en tunique d'un air un peu stupide.
« Jason et ses argonautes !»
précisa Odysseus en leur lançant un regard interloqué.
« Vous connaissez sûrement leur histoire. »
Ce fut sa vie qui rompit le silence gêné.
« Ils ne connaissent aucune histoire, fils de Laërte. Nos humains, prétendument à l'ancienne, sont des êtres sans passé, sans mythe et sans légende. »
Hormis celle du Turin. Ils sont aussi post-alphabétisés que toi et tes camarades étaient pré-alphabétisés.
Nous n'avions pas besoin de gribouillis sur l'écorce, le parchemin ou la boue séchée pour faire de nous des hommes dignes de ce nom, gronda Odysseus. Nos ancêtres avaient essayé l'écriture pour finir par l'abandonner, la jugeant inutile.
Exact, fit Savi d'un ton sarcastique. « Mes nerfs sont-ils moins durs pour n'avoir pas de lettres, et mon sexe en est-il moins raide ? » Une citation d'Horace, je crois bien.
Odysseus lui décocha un regard noir.
« Vas-tu nous raconter l'histoire de Jason et de ses quoi ?»
demanda Anna. La voyant rougir, Ada acheva de se convaincre que son ami avait bien couché avec Odysseus la nuit précédente.
« Ses argonautes. »
répondit ce dernier, détachant les syllabes comme s'il s'adressait à une enfant.
« Non, je ne vous la raconterai pas. »
Les yeux d'Ada se posèrent sur Arman, et son esprit se remémora la longue nuit qu'ils avaient vécue. Elle aurait voulu s'éloigner avec lui parmi les arbres pour évoquer les souvenirs qu'ils partageaient, ou à tout le moins fermer les yeux et s'endormir dans cette clairière mouchetée de soleil pour rêver peut-être à leurs étreintes. Encore mieux, songea-t-elle en contemplant Arman sous ses cils baissés. On pourrait s'esquiver dans la forêt pour y faire à nouveau l'amour. Mais Arman ne sembla pas réagir à sa demande muette, comme s'il avait mis en sommeil sa télépathie amoureuse. Le bien-aimé Dada ne semblait s'intéresser qu'aux remarques d'Odysseus.
« Vas-tu nous raconter une histoire de la guerre du Turin ? » demanda-t-il à l'homme barbu.
« Cette guerre était celle de Troie. Et au diable, votre satané chiffon !»
rugit Odysseus, que le vin semblait cependant avoir un peu calmé.
« Mais je peux vous raconter une histoire dont votre précieux Turin ne connaît rien. »«
Oui, s'il te plaît, »
dit Anna en se rapprochant du guerrier.
« Que le Seigneur nous délivre des conteurs, » marmonna sa vie.
Elle se leva, rangea sa gamelle dans le compartiment du Sony et disparut dans la forêt. Daemon la regarda partir d'un air inquiet.
« Il y a vraiment des prédateurs plus dangereux que les dinosaures dans le coin ? » demanda-t-il à la cantonade.
« Sa vie ne court aucun danger, » lui dit Arman. « Elle a son arme sur elle. »«
Mais si une bête la dévorait, qui piloterait le Sony ?»
demanda Daemon sans tourner la tête.
« Chut !» fit Anna.
Elle posa ses longs doigts bronzés sur le poignet d'Odysseus.
« Raconte-nous l'histoire dont le Turin ne sait rien. S'il te plaît. »
Odysseus plissa le front, mais Ada et Arman hochaient la tête pour appuyer la requête d'Anna. Aussi, il s'essuya la barbe et commença.
« Votre chiffon ne vous a pas montré cet épisode, et il ne vous le montrera jamais. Les événements que je vais vous relater se sont produits après la mort d'Hector et de Paris, mais avant la venue du cheval de bois.
« Paris va mourir ?» demanda Daemon.
« Hector va mourir ?» demanda Anna. « Quel cheval de bois ?»
demanda Ada. Odysseus ferma les yeux, se passa les doigts dans la barbe et dit
« Pourrais-je poursuivre sans interruption ?»
Tous acquiescèrent.
Les événements que je vais vous décrire se sont produits après la mort d'Hector et de Paris, mais avant la venue du cheval de bois. À cette époque, la cité d'Ilium possédait, entre autres puissants trésors, une image divine tombée du ciel. Vous appelleriez cela une météorite, une pierre façonnée par Zeus lui-même longtemps avant notre guerre, pour signifier que le Père des dieux approuvait la fondation de la ville. Cet objet de pierre et de métal s'appelait le Palladion, car sa forme était celle de Pallas. Pas Pallas Athénée, le nom que nous donnons à notre déesse, mais Pallas tout court, l'ami d'Athénée dans sa jeunesse. Cette Pallas, ce terme peut être masculin ou féminin dans notre langue, en fonction de son accentuation, mais son sens ici est proche de celui du mot latin virago, qui signifie « vierge farouche », avait péri lors d'un combat amical avec Athénée. Et ce fut Ilos, le père de Laomédon, qui à son tour engendrerait Priam, Titon, Lampos, Clitos et Iquétaon, qui trouva cette pierre des étoiles un beau matin devant sa tente, et la reconnut pour ce qu'elle était. Cet antique Palladion, source secrète de la puissance et de la richesse d'Ilium, mesurait 3 coudées de haut, portait dans sa main droite une lance, dans la gauche une quenouille et un fuseau, et il était associé à la déesse de la mort et de la destinée. Ilos et les autres ancêtres des défenseurs de Troie avaient ordonné la fabrication de plusieurs répliques du Palladion, toutes de tailles différentes, qu'ils gardaient avec autant de vigilance que la vraie, car tous savaient que la survie même d'Ilium en dépendait. Ce sont les dieux eux-mêmes qui m'ont révélé cela lors des dernières semaines du siège, et j'ai confié à Diomède le projet qui était le mien. M'introduire dans la cité et localiser le véritable Palladion, afin que nous puissions y aller ensuite tous les deux et le dérober, scellant ainsi le destin de Troie. J'ai commencé par me grimer en mendiant, me revêtant de haillons et demandant à mon serviteur de me fouetter, me camouflant sous les plaies et les marbrures du cuir. Les citoyens d'Ilium, voyez-vous, étaient connus pour leur faiblesse en matière de discipline. Ils préféraient gâter leurs esclaves plutôt que les punir, et jamais le serviteur d'une bonne famille troyenne n'aurait osé sortir avec des traces de fouet sur la peau et des guenilles sur le dos. Le spectacle que j'offrais, raisonnais-je, pousserait les Troyens gênés à détourner les yeux de ma personne, sans parler de l'odeur. Le déguisement idéal pour un espion, ne pensez-vous pas ? Si j'avais choisi d'accomplir moi-même cette tâche,
c'est parce que j'étais le plus rusé, le plus intelligent des Achéens. Et aussi parce que j'avais déjà franchi les portes de Troie plus de 10 ans auparavant, à la tête d'une délégation ayant pour mission de négocier la libération d'Hélène avant l'arrivée en force de nos nefs noires qui marquerait le début des hostilités. Ces négociations avaient échoué, bien entendu. Tous les Argiens étaient impatients d'en découdre et de piller la région. Mais j'avais gardé en mémoire le plan de la ville que nous dissimulaient désormais les hautes murailles. Dans mon rêve, les dieux, sans doute s'agissait-il d'Athénée, car elle était le plus ardent des partisans de notre cause, m'avait révélé que le Palladion et ses nombreuses répliques se trouvaient quelque part dans le palais royal de Priam. Mais il ne m'avait pas précisé leur emplacement exact, pas plus qu'il ne m'avait indiqué comment distinguer l'original de ses copies. J'ai attendu le plus noir de la nuit, l'heure où les feux sur les remparts sont presque éteints et les sentinelles presque endormies. Puis j'ai lancé un grappin pour me hisser en haut des murailles, tuant un garde une fois arrivé et dissimulant son cadavre sous le foin entassé pour nourrir les chevaux traces. Ilium était fort vaste, c'était la plus grande cité du monde, et il m'a fallu un certain temps pour parcourir ses rues et ses venelles jusqu'au palais de Priam. J'ai été arrêté à 2 reprises par des patrouilles, mais il m'a suffi de grommeler quelques mots et d'agiter mes bras sanguinolents pour qu'il me laisse passer, me prenant pour un esclave puni pour sa stupidité. Le palais de Priam était vaste lui aussi. Il comprenait 50 chambres, autant que Priam avait de fils. Et il était gardé par l'élite des soldats troyens, avec un homme posté à chaque porte et à chaque fenêtre du rez-de-chaussée, plus d'autres dans les cours et sur les remparts. Mes plaies et mes sourires ne risquaient pas d'endormir la méfiance de ces sentinelles-là. Je me suis donc rendu dans les appartements d'Hélène, situés plus au sud, qui étaient un peu moins bien gardés. Et j'ai tué mon second Troyen de la nuit, dissimulant également son cadavre dans la mesure de mes moyens. Après la mort de Paris lors d'un duel à l'arc, Hélène avait été donnée en mariage à Déiphobe, l'un des fils de Priam, que le peuple d'Ilium surnommait « celui qui met l'ennemi en déroute » et que nous autres Achéens appelions « cul de bœuf ». Mais il n'était pas chez lui cette nuit-là, et Hélène dormait seule. Je la réveillais. Je ne crois pas que je l'aurais tuée si elle avait appelé à l'aide. Je la connaissais depuis des années, voyez-vous, à la fois parce que le noble Ménélas m'avait souvent invité dans sa demeure, et parce que, avant cela, j'avais courtisé Hélène quand elle avait atteint l'âge nubile. C'était purement formel à mes yeux, car j'étais déjà l'époux comblé de ma chère Pénélope. C'est sur mes conseils que Tindare avait exigé des soupirants qu'ils s'engagent par serment à respecter le choix d'Hélène, ce qui avait permis d'éviter une effusion de sang. Hélène, je pense, m'en avait toujours été reconnaissante. Elle n'appela pas à l'aide cette nuit-là, lorsque je l'arrachais à un sommeil agité dans sa demeure d'Ilium. Elle me reconnut tout de suite, me serra dans ses bras et s'enquit de la santé de son véritable époux, Ménélas, et de sa fille. Je lui dis qu'ils allaient bien tous les deux, m'abstenant de préciser que Ménélas avait été par 2 fois grièvement blessé au combat et souffrait en outre d'une 12 de blessures plus légères, la dernière en date étant due à une flèche logée dans sa hanche qui le mettait de fort méchante humeur. Je me contentais de lui assurer que son époux se languissait d'elle, ainsi que sa fille restait à Sparte, et que tous l'espéraient en bonne santé. Hélène éclata de rire. « Monseigneur et maître Ménélas n'espèrent que mon trépas, et tu le sais parfaitement, Odysseus, et je ne doute pas qu'il fera tout son possible pour me tuer lorsque s'effondreront les portes scellées d'Ilium, ainsi que la prophétisée Cassandre. » Je ne connaissais pas cette devineresse. La Pythie de Delphes et Pallas Athénée étaient les seuls oracles auxquels je me fiais. Mais je ne pouvais guère la contredire. Il était fort probable que Ménélas trancherait la gorge de son épouse, aigri qu'il était par les années qu'elle avait passées dans le camp et le lit de ses ennemis. Mais je me gardais de dire à Hélène le fond de ma pensée. Je préférais lui promettre d'intercéder en sa faveur auprès de Ménélas, fils d'Atrée, afin qu'il choisisse de l'épargner, à condition qu'elle ne me trahisse pas, mais m'aide à pénétrer dans le palais de Priam et à reconnaître le véritable Palladion. « Jamais je ne te trahirai, Odysseus, fils de Laërte, sage et rusé conseiller. » Et Hélène m'apprit comment circonvenir les défenses du palais et distinguer le vrai Palladion de ses multiples imitations. L'aube allait bientôt se lever. Je n'aurais pas le temps d'accomplir ma mission cette nuit-là. Je regagnai donc les rues d'Ilium et ressortis de la ville comme j'y étais entré. Puis, après avoir pris quelques heures de sommeil réparateur, je priai Macaon, fils d'Asclépios et guérisseur sans reproche, de panser mes blessures et de leur appliquer une compresse. Le soir venu, je rejoignis Diomède, car j'avais besoin d'un allié, ne pouvant à la fois transporter le Palladion et affronter les ennemis qui se dresseraient sur ma route. Au cœur de la nuit la plus noire, le fils de Tidée et moi avons escaladé la muraille, après avoir tué une sentinelle d'une flèche bien placée. Puis nous avons avancé à pas de loup dans les ruelles et les venelles obscures. Il n'était plus question de se déguiser en esclave, mais de progresser avec vitesse et efficacité, pénétrant dans le palais de Priam par un regard d'égout dont Hélène m'avait signalé l'existence. Diomède, aussi fier que peut l'être un crétin de héros argolide, n'était guère enthousiaste à l'idée de passer par les égouts, même si c'était pour assurer la chute d'Ilium. Il ne cessait de grommeler, de râler, de rouspéter, et il était d'une humeur massacrante lorsque nous avons été contraints d'emprunter un conduit d'évacuation des latrines pour gagner le sous-sol du palais, là où Priam avait planqué ses trésors dans les baraquements de ses soldats d'élite. Nous progressions en silence, mais notre odeur nous précédait, et nous avons dû tuer les 20 premiers gardes que nous avons croisés dans les couloirs. Le 21e nous a montré comment ouvrir les portes de la salle du trésor sans déclencher ni piège ni alarme, puis Diomède lui a tranché la gorge à son tour. Outre des tonnes d'or, des montagnes de pierres précieuses, des étangs de perles, des monceaux de tissus ouvragés, des coffrets de diamants et une portion substantielle des fabuleux trésors de l'Orient, la salle abritait une quarantaine de statues du Palladion, rangées dans autant de niches. Elles étaient toutes identiques, exception faite de leur taille. Hélène a dit de ne prendre que la plus petite, déclarai-je à Diomède. Joignant le geste à la parole, j'enveloppai le Palladion dans la cape rouge que j'avais prélevée sur le cadavre du dernier garde. Nous tenions entre nos mains la fin d'Ilium. Il ne nous restait plus qu'à sortir de la ville. C'est à ce moment-là que Diomède a décidé de s'emparer des trésors de Priam cette nuit même, immédiatement, tout de suite. L'appât du gain avait rendu fou ce crétin sans cervelle. Diomède aurait sacrifié 10 ans d'épreuves et d'efforts pour quelques centaines de livres d'or. Je l'ai dissuadé. Je ne vous décrirai pas le combat qui nous a opposés lorsque j'ai posé par terre le Palladion pour dégainer mon épée et empêcher le fils de Tidée, le roi d'Argos, de ruiner notre mission par son avidité. Ce combat fut bref et je l'ai emporté par la ruse. Bon, puisque vous insistez, je vais tout vous dire. Je ne l'ai pas emporté noblement. Il n'était pas question d'Aristeia. J'ai proposé d'ôter nos tuniques puantes avant de nous battre, et pendant que cet imbécile se déshabillait, je l'ai assommé avec un quelconque objet en or massif. En fin de compte, j'ai dû fuir le palais de Priam en portant le Palladion d'une main, et ce poids mort qu'était Diomède sur une épaule. Bien entendu, je ne pouvais pas le hisser par-dessus les murailles, et j'envisageais de l'abandonner là où le grand collecteur d'égouts se jetait dans le fleuve, près des remparts d'Ilium, lorsqu'il a repris connaissance et accepté de sortir de la cité avec moi. Nous sommes donc partis discrètement. Très discrètement. Il ne m'a plus adressé la parole ce jour-là, ni cette semaine, ni après la chute et le pillage d'Ilium, ni durant nos préparatifs pour le voyage de retour. En fait, je n'ai plus jamais parlé à Diomède depuis lors. Je devrais ajouter que c'est peu après que j'eus rapporté le Palladion dans le camp argien, où nous l'avons caché avec soin, persuadé que les jours de Troie étaient désormais comptés, que nous avons entrepris de construire le gigantesque cheval de bois. Ce cheval avait 3 objectifs. Primo, il me permettait de m'introduire dans la cité accompagné de guerriers triés sur le volet,
Secondo, il obligerait les Troyens à démonter le grand linteau de pierre surmontant les portes C pour le laisser passer, car la prophétie assurait que ces deux conditions étaient nécessaires à la chute de Troie, la perte du Palladion et la destruction du linteau. Tertio, ce cheval était aussi une offrande destinée à Athénée pour compenser la perte du Palladion. Elle était aussi connue sous le nom d'Hippia, la déesse des chevaux, car c'était elle qui avait dompté et harnaché Pégase pour le donner à Bellérophon, et elle saisissait la moindre occasion pour chevaucher ses propres cavales. Ainsi s'achève, mes amis, le bref récit du vol du Palladion et de la chute de Troie. J'espère qu'il vous a plu. Avez-vous des questions à poser ?
Le regard d'Ada croisa celui d'Arman. Le bref récit, se dit-elle, et elle vit son amant capter sa pensée comme s'il lui avait envoyé un baiser.
Oui, j'ai une question à poser, dit Daemon.
Odysseus hocha la tête.
Cette cité, pourquoi l'appelles-tu tantôt Troie et tantôt Ilium ?
Demanda le corpulent jeune homme. Odysseus secoua doucement la tête, se leva, attrapa son épée à bord du Sony et s'éloigna dans la forêt.